VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 12 février 2019, en direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Sénégal, des morts en marge de la campagne pour la présidentielle du 24 février prochain.
Des morts également dans la campagne pour la présidentielle de ce mois-ci au Nigeria.
Au Cameroun, 4 personnes ont été tuées hier par des hommes armés dans le sud-ouest anglophone.
Rencontre en marge du sommet de l'OIA à Addis Abeba entre le nouveau président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame.
Accord de principe ici à Washington entre négociateurs démocrates et républicains pour éviter un autre shutdown.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février a connu des violences entre dimanche et lundi qui ont coûté la vie à 3 personnes dans la région de Tambacounda, située au sud-est de Dakar. Elles ont été tuées dans des affrontements entre des partisans de la coalition au pouvoir et ceux d'Issa Sall, un candidat de l'opposition. De Dakar, des détails avec Seydina Abagay.
Tout a commencé le dimanche avec une querelle d'affichage entre les militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement du candidat Issa Sall et ceux de la coalition Benno Bokk Yakar du président sortant Macky Sall. Rapidement, cela a dégénéré en affrontement et un jeune militant de la coalition au pouvoir a été mortellement poignardé par la garde rapprochée du candidat Issa Sall. À l'annonce de sa mort, des jeunes de Tambacounda ont manifesté leur mécontentement en mettant en place des barricades. Certains militants de Benno Bokk Yakar, eux, barrent la route nationale avec leur moto et attaque le convoi du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Un des chauffeurs du convoi fonce sur les jeunes conducteurs de moto et tue 2 d'entre eux, portant ainsi le bilan à 3 morts. Plusieurs blessés ont aussi été enregistrés, dont 2 graves parmi les journalistes. Le bus de la presse, un minibus et 2 véhicules du convoi du candidat Issa Sall ont été incendiés, tout comme la maison où les journalistes avaient trouvé refuge. Alors que sa garde rapprochée est incriminée, le candidat Issa Sall, lui, accuse l'État du Sénégal d'avoir failli au plan sécuritaire. De son côté, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces violences meurtrières. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Au Nigeria, où une présidentielle est également prévue ce mois-ci, 5 personnes ont été tuées dimanche dans le sud-est après des affrontements entre partisans des 2 principaux partis politiques. Selon le porte-parole de la police de l'État du Delta, ces personnes, des membres du parti au pouvoir, l'APC, ont été abattues dans ce qui ressemble à des représailles menées par des personnes soupçonnées d'appartenir à des partis politiques de l'opposition.
D'autre part, le parti au pouvoir au Nigeria a accusé les États-Unis de miner la confiance du pays. Washington avait appelé à des élections libres et sans intimidation à l'occasion des scrutins présidentiels et législatifs prévus le 16 février. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Des déclarations pareilles minent la confiance du pays, a affirmé dans un communiqué Festus Keyamo, porte-parole du Congrès des progressistes APC, le parti au pouvoir. La semaine dernière, les États-Unis ont appelé le Nigeria à faire en sorte que les élections soient libres, justes, transparentes et pacifiques, et que la commission électorale puisse travailler sans subir d'intimidation. Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, avait lancé une mise en garde à ceux qui interfèrent avec le processus électoral ou incitent à la violence qui devront rendre des comptes. Le gouverneur de l'État de Kaduna, Nazir El-Rufai, avait proféré des menaces ouvertes contre les étrangers qui veulent intervenir dans le processus électoral. Il avait lâché dans un meeting électoral, je le cite, « Personne ne viendra nous dire comment diriger notre pays ou ils repartiront dans des sacs mortuaires. » Samedi prochain, le président sortant Muhammadu Buhari brigue un second mandat face à Atiku Abubakar, ancien vice-président et porte-drapeau du PDP, le principal parti d'opposition.
Au Cameroun, 4 personnes ont été tuées hier. Lundi 11 février, par des hommes armés dans l'hôpital de Kumba, ville anglophone du sud-ouest. À noter à ce sujet que c'est le 11 février 1961 qu'a eu lieu le référendum qui a réuni francophones et anglophones et que Yaoundé a transformé en 1966 en une fête de la jeunesse. Le point avec Morgane Guériac.
Les assaillants ont tué 4 personnes à l'hôpital de Kumba et ont incendié le bâtiment, selon un responsable de cette ville. L'identité des victimes n'a pas été dévoilée. Kumba est à environ 70 km au nord de Boya, l'une des villes les plus touchées par le conflit. Les séparatistes anglophones avaient menacé de s'en prendre aux célébrations du 11 février, marquant la réunification entre les régions anglophones et francophones. Depuis début février, au moins 4 personnes ont été tuées à Boya, dont une a été décapitée. Mardi, un pasteur a été tué à Ntim, dans le nord-ouest, et un lycée de Babadjou, ville de l'ouest francophone, a été attaqué. En février 2018, les séparatistes avaient aussi multiplié les attaques. Le président Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 36 ans, a appelé plusieurs fois les séparatistes à déposer les armes, répétant que ceux qui ne le feront pas seront neutralisés. Selon l'ONU, 437 000 personnes ont été déplacées par ce conflit et plus de 32 000 ont fui vers le Nigeria voisin.
La ministre gabonaise de la Défense nationale, Rose Christiane Osuka-Raponda, nommée fin janvier, va prêter serment aujourd'hui devant le président Ali Bongo Ondimba à l'ambassade du Gabon au Maroc, a annoncé hier à Libreville la présidence gabonaise. Victime d'un accident cardiovasculaire le 24 octobre en Arabie Saoudite, le président Bongo poursuit sa convalescence au Maroc. Les membres de la Cour constitutionnelle assisteront à cette prestation de serment.
Le nouveau président congolais Félix Tshisekedi poursuit son offensive de charme. Il a rencontré le président du Rwanda, Paul Kagame, qui avait émis de sérieux doutes sur sa victoire à la présidentielle du 30 décembre dernier. Le point avec Eddie Isango.
En marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les deux chefs d'État ont eu près de 2 heures d'entretien sur des questions de bon voisinage et de franche coopération. Les deux pays ont des relations tendues depuis 25 ans. Kinshasa accuse Kigali d'épier ses minerais dans le Nord Kivu. Kigali dénonce la présence des rebelles Hutu FDLR dans l'est de la RDC. Président en exercice sortant de l'Union africaine, M. Kagame avait demandé à la Cour constitutionnelle de la RDC de suspendre la proclamation des résultats, les temps d'envoyer une délégation à Kinshasa. La Cour constitutionnelle avait passé outre et proclamé la victoire de M. Tshisekedi. Peu après, Kinshasa a extradé à Kigali 2 membres des FDLR, dont son porte-parole, la Forge Fils Bazeye. Par ailleurs, pour sa première participation à un sommet de l'Union africaine, M. Tshisekedi il y a rencontré plusieurs chefs d'État africains, dont le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Il a eu un entretien avec Federica Mogherini de l'Union européenne et a abordé avec Antonio Guterres, patron de l'ONU, l'avenir de la MONUSCO. Ce déplacement de M. Tshisekedi a été précédé par une tournée régionale à Luanda, Nairobi et Brazzaville.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, accord de principe entre négociateurs des deux parties au Congrès pour financer le gouvernement et éviter un autre shutdown, la fermeture partielle du gouvernement fédéral à la fin de la semaine. Aucun des participants à ces négociations n'a fourni de détails. On ne sait pas non plus si le président Donald Trump recevra tous les fonds qu'il a demandés pour construire le mur qu'il a promis à la frontière avec le Mexique. Les démocrates ont offert bien moins que ce qu'il a réclamé.
Haïti est de nouveau plongé dans l'incertitude et la tension. Des barricades ont été érigées paralysant l'activité dans les principales villes. L'exécutif fait la sourde oreille face aux revendications sociales scandées lors des manifestations. Le point avec Irénée Herman Ungo.
Des tirs sporadiques ont résonné dans certains quartiers de Port-au-Prince, alors que des blocages routiers étaient rapportés dans plusieurs villes de province. Barricades tenues par des jeunes rançonnant toute personne se risquant à traverser. Incendie de véhicules, dégradation de commerce et même quelques petits pillages. Un climat d'intimidation et de violence dominait dans la capitale en marge des défilés d'opposants. La colère populaire s'intensifie avec l'aggravation des difficultés économiques subies par la majorité pauvre. L'inflation dépasse les 15%. Depuis 2 ans, la première des revendications des manifestants est de pouvoir manger à leur faim. Les grands axes de Port-au-Prince étaient déserts par peur des violences. La majorité des écoles, commerces et l'administration n'ont pas ouvert leurs portes depuis la large mobilisation de l'opposition le 7 février, marquant les 2 ans du mandat présidentiel de Jovenel Moïse. Des manifestations spontanées de plus faible ampleur ont gagné les principaux centres urbains du pays.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nanit Talani.
Le Mali veut émettre des bons sur le marché des titres publics de la zone de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest pour essayer de lever 20 milliards de francs CFA. Financial Bank révèle que la valeur nominale unitaire de cette opération est fixée à 1 million de francs CFA. L'émission vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue de couvrir les besoins de financement du budget 2019 du Mali. Traînant une dette de 419 milliards de rands, Eskom, le principal fournisseur de l'électricité en Afrique du Sud, annonce des délestages dans tout le pays pour cause de défaillance dans sa capacité de production. Un porte-parole de la compagnie Koulou Fassiwe évoque des délestages de niveau 4 qui signifie une réduction de 4000 MW de la puissance produite. La société a perdu plusieurs nouvelles unités de production, ce qui a encore accru la charge qui pèse sur le réseau. Pour finir, la société minière tanzanienne Acacia compte produire 500 000 à 550 000 onces d'or en 2019 pour un coût de 860 à 920 dollars l'once. En 2018, sa production s'élevait à 521 980 onces pour un coût de 905 dollars l'once. D'après Reuters, ces deux chiffres sont inférieurs à ceux de 2017, mais supérieurs aux attentes d'Acacia Mining. Ses parts avaient augmenté de 3,5% tandis que le bénéfice par action de base s'élevait à 14,4 cents contre une perte de 172,5 cents un an auparavant.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Quatrième journée de la Ligue africaine des champions ce soir.
Oui, duel ouest africain à Abidjan entre l'ASEC Mimosa et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns dans le groupe A. L'autre match de cette poule opposera les Marocains du Wydad Casablanca aux Nigériens de Lobistar. Dans le groupe B, l'Espérance de Tunis reçoit les autres Sud-Africains d'Orlando Pirates. Dans l'autre match de ce groupe, les Guinéens joueront à domicile face au Platinum du Zimbabwe. Le TP Mazembe se rend chez le club africain en Tunisie. Dans le groupe C, l'autre match entre Constantine et Ismaili réintégré dans la compétition a été reporté. À suivre aussi dans la poule D, le déplacement des Congolais de l'AS Vita Club qui iront défier les Algériens de Saoura. À la Ligue d'Égypte fera un sérieux pas vers les quarts en cas de victoire sur les installations des Tanzaniens de Simba.
Parlons toujours de la Ligue des Champions, mais cette fois-ci en Europe.
Oui, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir sur la pelouse de Manchester United à 20h temps universel en 8e de finale aller. Des trois vedettes de l'attaque parisienne, la fameuse MSN Mbappé, Cavani, Neymar. Il n'y aura que Kylian Mbappé à Old Trafford. Cavani et Neymar sont blessés et restent difficiles à remplacer, comme nous le fait savoir l'entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel.
On ne peut pas pousser la pression sur Kylian, mais pourquoi? Il est Kylian et il a son qualité. Ce n'est pas son travail de remplacer Ney et Eddie et être Kylian à le même temps. C'est vrai, on manque de joueurs clés offensifs. On a une tradition, on joue offensif et nous sommes capables de jouer dans un niveau très haut, mais on n'a pas d'histoire dans les Ligues des Champions. Hein. On n'a pas d'histoire pour quatre finales, demi-finales, finales.
À l'inverse, Manchester United s'est ressaisi depuis le limogeage de José Mourinho le 18 décembre et se porte mieux. Manu se méfie tout de même de l'absence des deux pièces maîtresses de l'attaque parisienne, même s'il compte en tirer profit. Écoutons l'attaquant de Red, Anthony Martial.
On ne part pas favori, mais après c'est sûr qu'avec leurs joueurs absents, c'est bénéfique pour nous. Mais après, on sait qu'ils ont des grands joueurs derrière. Donc voilà, ça va être un très beau match et j'espère qu'on va gagner.
Dans l'autre rencontre, moins prestigieuse sur le papier en tout cas, l'AS Rome reçoit Porto au stade olympique. En quatre confrontations, le club portugais n'a jamais perdu contre les Romains. On finit avec les résultats de la nuit dernière en NBA, c'est en basketball.
Cleveland et New York 107 à 104, Détroit et Washington 121 à 112, Indiana et Charlotte 99 à 90, Milwaukee et Chicago 112 à 99, Houston et Dallas 120 à 104, Minnesota et LA Clippers 130 à 120, Oklahoma City et Portland 120 à 111, Denver et Miami 103 à 87.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le Sénégal et la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février. Des scènes de violence entre militants ont été notées dans plusieurs localités et comme nous l'a dit Seydina Abagay en première partie, trois personnes ont été tuées dans l'est du pays. Il s'agit de partisans, d'affrontements entre partisans de la coalition au pouvoir et militants du parti du rassemblement du candidat Issa Sall, parti de l'unité et du rassemblement. Qu'est-ce qui explique ces violences? Abdourahmane Dia a posé la question hier à l'analyste politique Jacques Abibsi.
Je crois que ce qu'il explique, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a partout une sorte d'emballement de la plupart des services de sécurité des candidats qui ont reçu la consigne de faire rouler à tombeau ouvert leur véhicule pour des raisons de sécurité, de sorte que des projectiles de quelque nature que ce soit ne puissent pas les atteindre. La deuxième, c'est lié au fait que lorsqu'il y a des excès de vitesse de cette nature, on nous a dit que certains ont affiché 140 à 150 à l'heure. Naturellement, vous ne pouvez pas vous arrêter. Ce sont des embardés et naturellement, tout ce qui se trouve sur votre passage est emporté.
Il y a ces caravanes, mais on a aussi vu des batailles rangé entre militants de différents candidats.
C'est aussi un autre problème. Je crois que c'est un cauchemar pour tout service de sécurité nationale de pouvoir prendre en compte ces caravanes qui sont en mouvement perpétuel dans un sens ou dans un autre et qui fatalement finissent par se rencontrer.
Que pensez-vous du cas de ces, disons, des services de sécurité privés? Bon, certains vont même jusqu'à les qualifier de milices privées qu'on a vu dans cette campagne. Est-ce que cela ne pose pas problème?
Ah ben oui, ça c'est pas la première fois qu'on a affaire à des gros bras, mais pour la première fois, nous assistons à un nombre aussi élevé de gens qui pourraient être apparentés à des milices carrément, qui sont entraînés par des hommes de l'art, soit des arts martiaux, soit des pratiques militaires.
Le Sénégal a quand même connu des violences en période électorale, notamment en 2012 où il y a eu plusieurs morts, même en 88 où l'on a dû assister à la déclaration de l'état d'urgence. Qu'est-ce qui explique cette tradition de violence pour un pays considéré stable et démocratique?
Écoutez, ce n'est stable qu'en apparence, en réalité, parce que toutes les fois qu'il y a eu des confrontations électorale, il y a une montée d'adrénaline qui se manifeste et qui fait que les partisans n'hésitent pas à en découdre les uns avec les autres. Et je signale que déjà en amont, vous avez parlé de dates plus récentes, mais déjà en amont, en 1963, on avait signalé 70 à 100 personnes qui avaient été tuées sur le boulevard du Général de Gaulle.
C'était Jacques Abibsi, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, après la présidentielle, les législatives nationales et provinciales tenues le 30 décembre dernier, l'heure est à la préparation des sénatoriales et des élections des gouverneurs de province prévues en mars prochain. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé le dépôt des candidatures et en attendant le début de la campagne électorale et le jour du scrutin, les différents états-majors se préparent. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Seuls 24 des 26 provinces sont concernées par ces élections. Le Nord Kivu et le Maïndombe à travers Beni, Beniville, Boutembo et Yumbi qui n'ont pas pu voter le 30 décembre dernier pour des raisons sécuritaires et sanitaires attendront les élections des députés nationaux et provinciaux avant les sénatoriales et le renouvellement des gouverneurs et vice-gouverneurs. Les différents états-majors des partis et regroupements politiques, eux, préparent sérieusement ces importants scrutins. Jacquemin Chabani est le président de la la commission électorale permanente de l'UDPS.
Nous partons à ces élections avec de grandes ambitions. Il faut savoir que c'est une campagne, c'est un exercice auquel nous allons nous offrir à la mesure et à la grandeur de notre parti. Prenez le temps de voir d'abord les candidatures que nous allons placer et puis au résultat, nous allons faire le décompte ensemble.
Arrivé premier sur la liste des partis politiques ayant obtenu plus de députés aux législatives nationales, le PPRD veut rééditer le même résultat au sénatorial. Willy Bakonga est le secrétaire permanent adjoint du parti de Joseph Kabila.
Le PPRD est en train de se préparer encore pour être toujours la première force. Le PPRD a l'ambition d'avoir beaucoup de sièges au niveau de l'État, même au niveau des gouverneurs et vice-gouverneurs.
Au total, 108 sénateurs, plus le président sortant Joseph Kabila, désormais sénateur à vie, vont composer la future chambre haute du Parlement. À Kinshasa, l'enjeu majeur, c'est aussi le remplacement de André Kimbuta comme gouverneur de province. Les Kinois interrogés à ce sujet ont dit leurs attentes.
Nous attendons beaucoup de ce nouveau gouverneur de Kinshasa parce que le gouverneur qui est venu avant l'a laissé la ville dans une situation très délabrée. La ville de Kinshasa, elle est la ville la plus sale. Donc nous souhaitons d'abord que ce soit un monsieur qui arrivera à maîtriser et à urbaniser la ville et au-delà de ça, vraiment de travailler pour l'intérêt de la ville, non pas pour ses propres intérêts, s'acheter des immeubles, avoir des personnels de l'hôtel de ville d'abord qui ne sont pas payés.
Ce que nous attendons vraiment du gouverneur de Kinshasa, nous avons tellement envie de quelqu'un qui va travailler. Comme par exemple les poubelles qui sont partout, qu'il y ait un gouverneur dès qu'il arrive, qu'on puisse sentir vraiment qu'on a un gouverneur. On a tellement de choses qu'il faut qu'un gouverneur fasse et que l'autre ancien gouverneur n'a pas fait.
Nous sommes tous d'accord, mais si André Kimbuta a vraiment failli, il faut qu'il y ait un autre gouverneur compétent pour qu'il y ait un changement un peu dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est maintenant comme la ville la plus sale.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, la situation sécuritaire dans le nord-est divise les acteurs politiques et la représentation nationale. Le parti au pouvoir multiplie des rencontres pour demander de sanctionner les partis politiques qui font montre de sympathie à l'égard de la rébellion en ayant recours à un article de la loi sur les partis politiques. Nous dit N'Djamena, notre correspondant André Kotmajingar.
Tout parti politique qui contreviendrait aux dispositions de l'ordonnance 20 portant charte des partis politiques devrait répondre de tous ses actes et agissements.
Mahamat Zen Bada, secrétaire général du MPS parti au pouvoir, il fustige le comportement des partis politiques qui, selon lui, tentent d'utiliser l'incursion rebelle dans la partie nord-est du Tchad pour en faire un calcul politicien. L'ordonnance dont il fait allusion donne l'autorité au ministre de l'administration du territoire de dissoudre à son niveau les partis politiques qui dénoncent la mauvaise gestion du pouvoir.
Le bureau politique national du mouvement patriotique qui salue invite le gouvernement à appliquer les pertinentes dispositions de cette ordonnance en procédant à la dissolution des partis politiques subversifs.
Le président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, Brice Mbaye Gendebaye, estime que le secrétaire général du MPS fait de la diversion politique car, dit-il, Mahamat Zen Bada, en sa qualité du président du cadre national du dialogue politique, est conscient que l'application de cette ordonnance serait un retour au parti unique.
Tous les partis politiques ont rejeté cette ordonnance. C'est pour cette raison que le cadre national de dialogue politique s'est saisi et a mis sur pied un comité de relecture qui a fait des propositions qui ont été transmises au gouvernement. Nous attendons que soit le gouvernement envoie notre proposition en termes de projet de loi ou alors il peut valider sous forme d'ordonnance. Parce que tous les partis politiques l'ont repris, y compris le MPS. Donc aujourd'hui, il serait biffé pour revenir dire que l'ordonnance va s'appliquer parce qu'il y a eu une attaque au nord. Non, je crois que c'est un faux fuyant. Il faut peut-être décréter un parti unique que d'appliquer cette ordonnance-là.
Le vice-président de l'Assemblée nationale Moussa Kadam a, dans un communiqué rendu public le 9 février, déploré le comportement de certains leaders politiques qui instrumentalisent l'agression du Tchad par des bandes d'aventuriers à des fins inavouées alors que le comportement patriote responsable est attendu de tous. Pour le député Benelgar Madotoingé, ce n'est pas le rôle de l'Assemblée nationale de demander à tous les Tchadiens de parler le même langage dans cette situation.
Il y a des gens qui ont des nostalgiques de la dictature, donc ils ont le même réflexe et ils croyaient qu'on devrait se comporter de la même manière, mais c'est pas le parti parti unique. Soyons sérieux. L'Assemblée nationale devrait demander au gouvernement de chercher des voies et moyens de dialogue entre l'opposition militaire, l'opposition démocratique et la société civile. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes le mandataire du peuple.
Tout en s'opposant à toute prise du pouvoir par les armes, ainsi qu'à la confiscation du pouvoir par les armes, la campagne Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique, section du Tchad, condamne l'ingérence de la France dans le conflit interne au Tchad. André Kodmadingar Ndjamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Pour terminer, retour sur les Grammy Awards qui, cette année, ont mis l'accent sur des femmes d'influence qui ont un impact indéniable sur la vie des gens. Plusieurs d'entre elles ont été récompensées lors de cette soirée dimanche soir pour leurs nombreuses actions en faveur de l'émancipation du monde, notamment des femmes. Nous retrouvons Irénée Herman Ungbo.
Soirée des Grammy, Los Angeles, Californie. Apparition surprise de l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Elle était entourée de Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Jennifer Lopez et de l'animatrice de la soirée, Alicia Keys, pour donner le ton de cette grande soirée de récompense.
Whether we like country or rap or rock, music...
Que nous aimions la musique country, le rap ou le rock, la musique nous aide à partager notre dignité et nos peines, nos espoirs ainsi que nos joies. Cela nous permet de nous entendre. La musique nous montre l'importance de tout cela. Chaque histoire dans chaque voix, chaque note dans chaque chanson. N'est-ce pas, mesdames?
Une nuit essentiellement consacrée aux femmes d'influence comme Cardi B, sacré meilleur album rap. Elle est la première femme à recevoir ce prix.
Je suis désolée, les nerfs sont si mauvais.
Camila Cabello donne du punch à la scène, mettant en vedette une kyrielle d'artistes tels que Ricky Martin, lisant un journal qui portait un titre captivant, « Ne construisez pas de mur ». Lady Gaga reçoit 3 Grammy avant une brillante interprétation de sa chanson en compétition intitulée « Shallow ». Et Alicia Keys vient imprimer sa touche à la soirée, alternant son jeu entre 2 pianos. Mais le temps fort de la soirée, c'était cet artiste de la musique country, Kazee Musgrave, qui a remporté 3 trophées, dont celui du meilleur album de l'année. La soirée a été aussi agrémentée par ce duo féminin, composé de l'incomparable Dolly Parton et sa filleule Miley Cyrus, avant que d'autres icônes de la musique ne les rejoignent sur scène. La virtuose Diana Ross a été introduite par la suite par son petit-fils adoré de 9 ans.
Welcome, my grandmommy, Diana Ross.
Yolanda Adams, Fantasia et Andrade ont rendu un vibrant hommage à la reine de la soul, Aretha Franklin, Natural Woman.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.